Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon mardi. J'espère que vous allez bien en cette journée ensoleillée, un peu collante, mais ça se prend bien. Marianne Paquette au micro pour ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M. On apprenait récemment que Santé Canada considérait retirer les jus de fruits du guide alimentaire canadien, une nouvelle qui plaît à plusieurs organismes de promotion de la santé et qui déplaît, bien sûr, vous l'aurez deviné, à d'autres organisations, celles entre autres liées à l'industrie du jus et des boissons. Pour faire la lumière sur cette question, à savoir, est-ce que les jus de fruits sont bons pour la santé? En avoir le cœur net une fois pour tout. Bernard Lavallée, en deuxième partie d'émission, sera là, lui qui est nutritionniste. Et puis, hier débutait la 28e semaine L'amitié n'a pas d'âge, qui vise à favoriser le rapprochement entre les générations pour le développement d'une société plus inclusive, plus solidaire et qui met en lumière du même coup l'importance de la participation sociale chez les personnes aînées. De nombreux chercheurs, à travers les années, se sont penchés sur cette participation pour découvrir, entre autres, que l'implication sociale des personnes aînées pourrait être bénéfique pour leur santé et physique et psychologique parce qu'elle renforce le sentiment d'utilité, parce qu'elle donne un sens à l'existence et bien d'autres choses aussi. C'est ce qu'on va découvrir à l'instant avec André Sévigny, chercheur au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec et professeur associé au département de médecine familiale de l'Université Laval. André Sévigny, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous joint du côté de Rimouski, j'imagine que c'est un petit peu plus frais qu'à Montréal.
Oui, effectivement, c'est un peu plus frais, mais c'est quand même beau.
Et chaud, on vous le souhaite du moins. André Sévigny, dans le contexte du vieillissement de la population dans lequel la société québécoise se trouve, la participation des aînés à la vie sociale, la vie collective, ça intéresse bien des chercheurs, comme je le disais tout à l'heure, bien des gens. Et ça représente, je pense qu'il faut le dire d'entrée de jeu, bien des enjeux, bien des aspects. C'est pour ça que d'entrée de jeu, je veux vous demander, qu'entend-on par participation sociale des personnes aînées?
Écoutez, c'est déjà en partant une question assez pas si facile à répondre en fait, parce qu'il y a différentes façons de définir la participation sociale. Mais je vous dirais là peut-être, je vous dirais peut-être ce que nous on pense que ce n'est pas.
On peut commencer par
pour
ça.
Pour nous, la participation sociale, en fait, il faut que ce soit un choix. On reparlera de la définition, mais qu'une personne âgée décide de participer socialement, il faut que ce soit un choix. Pour que le choix soit possible, il faut que la participation sociale soit accessible. Alors, c'est surtout là-dessus qu'on travaille, nous, en tout cas dans notre équipe de recherche. Pour nous, c'est vraiment, là, la participation sociale, c'est une façon de continuer à jouer des rôles sociaux et de participer au développement de la société. Mais c'est surtout pas un moyen, parce que vous savez, actuellement, là, on est dans un contexte où on craint beaucoup, compte tenu du vieillissement de la population, que les aînés, vous savez, on est dans une espèce de discussion autour d'enjeux concernant les coûts que pourrait coûter, que pourrait entraîner le vieillissement de la population, etc. Mais c'est important de voir aussi l'apport des aînés dans la société. Et c'est dans ce sens-là qu'on trouve ça important de développer puis de parler beaucoup de la participation sociale des aînés. Parce que les aînés ne sont pas qu'un poids, mais ils participent effectivement beaucoup. Alors, la participation sociale, en gros, là, je vous dirais que c'est une action qui permet à la personne aînée de prendre part à la vie de groupe, de prendre part à la société. Puis ça peut prendre différentes formes.
Mm-hmm. Oui.
Puis quand vous parlez de différentes formes, bien, écoutez, ça peut être... dans nos travaux, on a rencontré des aînés et des intervenants dans la grande région de Québec. Puis on leur a demandé, effectivement, c'était quoi pour eux la participation sociale. Puis je vais vous dire, c'est intéressant leur définition parce que ça fait vraiment ressortir différents ingrédients qui composent la participation sociale, un peu comme si c'était une recette. Pour participer socialement, ça veut dire que c'est socialement, c'est voir du monde, entrer en relation avec d'autres personnes. Mm-hmm. C'est partager des savoirs. C'est aider et s'entraider. C'est s'impliquer dans un projet collectif. C'est vivre des activités plaisantes en groupe. Et c'est aussi prendre du pouvoir dans des décisions quand l'occasion se présente, etc. Mm-hmm. Donc, je vous dirais qu'en gros, ce sont pour nous les ingrédients de la participation sociale.
Tout à l'heure, André Sévigny, vous disiez quelque chose d'intéressant. Tout d'abord, ça passe par le choix et après, ça doit être accessible. Mais je me dis, pour choisir de demeurer actif au sein d'une société et pour que ce soit également accessible, il faut également avoir la santé physique, la santé psychologique de le faire.
Oui. Voyez-vous, ça, ça demeure un dilemme au niveau de la recherche. C'est parce que je pense que la participation sociale mérite d'être étudiée encore plus qu'elle l'est actuellement. Surtout que quand on y pense, la participation sociale, ça nous habite, ça rejoint tout le monde.
Oui.
C'est quelque chose à différents niveaux, comme on disait tout à l'heure. Puis dans le fond, il y a encore cette espèce d'énigme où on se dit, est-ce que c'est parce que les aînés sont en meilleure santé qu'ils participent socialement ou si c'est la participation sociale qui fait qu'ils sont en meilleure santé.
Ça, c'est intéressant.
Mais, chose certaine, il y a un lien. Il y a un lien entre la santé et la participation sociale. Dans des, nous, on a fait une revue de littérature, comme c'est notre objet d'étude principal, on a commencé par aller voir un peu ce qui se disait, puis surtout de la littérature où il y a des gens qui avaient fait part de résultats d'études évaluatives. C'est-à-dire, il y a beaucoup, beaucoup d'interventions pour favoriser la participation sociale, mais il n'y en a pas tellement qui ont été évaluées, à savoir quel effet ça a, qu'est-ce que ça donne finalement pour les aînés de participer socialement. Dans ces études-là, on a pu voir que les résultats montrent que ça peut être lié même à une baisse de la mortalité, c'est-à-dire qu'on va vivre plus vieux quand on participe socialement. On peut aussi consommer moins de médicaments. On peut être moins anxieux. Il y a un lien aussi qui est fait dans certaines études avec une diminution ou un ralentissement du déclin cognitif. Tu sais, on reste plus agile, on reste plus en relation avec les autres, donc plus que ce soit d'un point de vue cognitif, intellectuel ou d'un point de vue même physique, si on participe socialement, on est appelé peut-être à bouger un peu plus, à aller vers d'autres, à marcher, etc. Donc, il y aurait des liens.
À rester mobile également.
Ouais. Diminution des symptômes de dépression. Augmentation du sentiment de bien-être, tu sais, la santé perçue. On va demander à des personnes qui ont le même état de santé, disons peut-être le même dossier médical, comment ils perçoivent leur santé. Bien, pour une personne, elle va se percevoir en moins bonne santé, puis un autre va se percevoir en meilleure santé pour, je dirais, peut-être le même profil. C'est subjectif aussi, la santé. Puis les gens qui participent socialement, ben il y en a qui retirent de ça le fait de se percevoir en meilleure santé. Ils se sentent mieux. Mm. Puis voilà, ça fait un peu, je dirais, partie des effets que ça peut avoir sur les personnes, en tout cas.
Mm-hmm. Et lorsque l'on parle d'une diminution de la consommation de médicaments, entre autres choses, ça devient à toucher une question de santé publique, une question de société. C'est la société qui s'en trouve mieux également. Diminution des coûts, etc.
Bien, je vous dirais, de ce point de vue-là, de toute façon, c'est sûr que c'est la société qui aussi est touchée parce qu'il y a une diminution des coûts de santé, il y a une diminution des coûts de santé, mais je dirais plus généraux, pas seulement les médicaments, mais tu sais, si on est en meilleure santé, si on se déplace mieux, si on a un déclin cognitif qui arrive plus tard, c'est certain que ça a une incidence. Mais il y a aussi un autre aspect qui est très social, je vous dirais. Tu sais, la population vieillit.
Mm-hmm.
On regarde les chiffres. Actuellement, on est autour de 17 %. Ça va augmenter. T'sais, on a un gros pourcentage de personnes qui ont 65 ans et plus. Quand on arrive à 20 % de la société, par exemple, pour faire un chiffron, est-ce qu'une société peut vraiment se passer de tout ce que ces personnes-là peuvent apporter?
Mais non.
Mm-hmm. Hein, c'est des piliers de la société aussi. Hein? Donc, quand je regarde la participation sociale, ce que ça apporte socialement, c'est-à-dire ce que ça apporte non seulement aux individus, mais aux autres autour dans la société, qu'on pense seulement aux aînés qui sont impliqués dans le développement économique, le développement social, qu'on pense aux aînés qui sont bénévoles, qu'on pense aux proches aidants, qu'on pense qu'ils sont souvent des aînés aussi. La participation sociale, là, ça leur permet de continuer d'apporter leurs compétences, leur expérience. Ils donnent du temps à la société.
Mm-hmm.
Je pense pas qu'on puisse se passer de l'énergie et des capacités de 20% de notre société.
André Sivigny, avec votre équipe, vous avez rencontré donc ces personnes qui vieillissent. Bon, on vieillit, tout le monde vieillit, là, en fait, mais ces personnes peut-être plus âgées. Est-ce que dans cette quête de recherche, vous leur avez demandé qu'est-ce qui les incitait à s'impliquer socialement? Est-ce qu'ils ont des besoins et que ces besoins doivent être répondus afin de participer, d'avoir une participation sociale?
D'abord, je vous dirais, en introduction à votre question, effectivement, il y a un des facteurs qui est lié à la participation sociale qui est l'âge, c'est-à-dire, puis l'état de santé. C'est certain qu'en vieillissant, même si on vieillit, si on vit plus vieux et en meilleure santé, ben, en vieillissant, c'est certain qu'on risque d'avoir davantage peut-être de limitations, de perte d'autonomie, tout ça, mais il reste qu'il y a quand même un bon pourcentage des aînés qui s'implique socialement. Là, moi, je pense à un aspect que je connais plus, qui est l'action bénévole,
mm-hmm.
où il y a un bon 40 % des aînés, 39 % des personnes de 55 ans et plus, mais 38 % des personnes de 65 ans et plus font du bénévolat. Ça, c'est quand même très présent, là. Puis, pour répondre à votre question, oui, on leur a demandé... Écoutez, il y a des choses qui concernent plus, des pistes d'action là pour les soutenir, pour développer leur participation. Il y en a qui concernent plus l'organisation des milieux de participation, mieux les accompagner pour qu'ils aient accès à ces milieux-là, adapter le milieu. Par exemple, c'est vrai que je peux avoir des limitations en vieillissant, mais si le local où il y a une activité qui m'invite et où je voudrais participer à un escalier et pas adapté, etc., fait que, évidemment, ça concerne d'autres tranches de la société que les personnes âgées, l'adaptation des locaux, mais ça joue beaucoup. Lutter contre l'âgisme, hein, ça a l'air plus large, mais tu sais, la vision qu'on a des aînés comme étant des personnes qu'on exclut plus facilement, peut-être. Il y a vraiment un travail à faire au niveau de l'accessibilité économique des activités. Je vous dirais même que plus les politiques sociales vont aider à rehausser les revenus des aînés, plus ils vont pouvoir participer socialement. C'est vraiment un des facteurs. Hein.
Oui, parce qu'évidemment, ça a un impact. Je lisais tout à l'heure, vous parliez de longévité, c'est-à-dire qu'un aîné qui est impliqué socialement a des chances de vivre plus longtemps. Mais je lisais même des personnes âgées qui participent à des activités culturelles, par exemple, qui vont au théâtre, qui vont voir des concerts. Bien, ça aussi, ça favorise la longévité, mais ça prend des sous pour y aller voir ces spectacles-là.
Oui, puis je vous dirais, tout ça, c'est des formes de participation sociale aussi, parce qu'ils continuent de pouvoir être actifs, être présents dans la société, partout où il y a des activités, qu'elles soient culturelles, économiques, sociales. Ça demeure et de la même façon qu'il y a plusieurs années, on a lutté pour les personnes qui vivent avec un handicap, ont lutté pour de l'accessibilité, ben on voit que ça profite à beaucoup de monde, autant aux femmes qui se promènent avec des poussettes qu'aux personnes qui sont en fauteuil roulant et qu'aux aînés qui ont une canne. Ça, il y a cet aspect-là physique, mais l'aspect économique aussi, même pour faire du bénévolat, certains nous ont dit, ben ça coûte quand même des sous être bénévole parce que je dois me déplacer.
Mm-hmm.
Parce que je vous donne un exemple très concret, une dame qui me dit, ben pour le bénévolat, ça va bien, j'ai pas à dépenser, mais souvent le groupe de bénévoles auquel j'appartiens vont après leur activité aller manger au restaurant. Moi, je peux pas faire ça, donc je m'exclus du groupe. Je pense que c'est certain qu'il y a un lien avec les conditions économiques des personnes.
Vous parliez tout à l'heure, André Sévigny, de politique. Comment notre société peut favoriser ou encourager la participation sociale des aînés?
Mais là, je vous dirais que déjà, il y a eu, en tout cas, une reconnaissance de l'importance de la participation sociale dans notre dernière politique sur les aînés, vivre et vieillir chez soi, ensemble, dans sa communauté. Je pense qu'il y a une intention, en tout cas, de favoriser la participation sociale des aînés. C'est certain que tout ce qui, à mon avis, tout ce qui est, c'est pas seulement les politiques aux aînés, hein, mais tout ce qui, dans notre façon d'organiser la société, favorise l'accès. Par exemple, je pense au transport. Comment on peut favoriser l'accès? Par quels moyens on peut favoriser l'accès à du transport qui permettrait, entre autres, aux aînés qui vivent en milieu rural de se déplacer, de participer à des activités? Nos politiques sur l'habitat. Comment on peut favoriser et améliorer les conditions d'habitat des aînés? Puis habitat, là, parce qu'on a aussi travaillé sur un projet qui porte sur l'habitat, milieu de vie et participation sociale. L'habitat, c'est pas seulement le logement, c'est aussi le milieu autour et comment le milieu peut être adapté pour favoriser la participation sociale.
Tout l'environnement. Là.
Tout l'environnement. Donc ça, là, ça touche beaucoup de nos politiques sociales.
Oui. André Sévigny, vous vous êtes intéressé, vous le disiez tout à l'heure, davantage aux bénévolants dans vos recherches. C'est un secteur important, on l'a entendu tout à l'heure. Les personnes âgées s'investissent beaucoup dans le bénévolat au Québec. Quels sont les autres secteurs dans lesquels ils ont envie de participer?
Ben, écoutez, déjà, il y a des secteurs, je dirais, appelons-les moins formels. Disons des secteurs dans l'informel, c'est-à-dire dans le lien familial. Moi, je suis chercheur, là, mais je suis grand-mère aussi. Pensons à tous les grands-parents qui, actuellement, compte tenu du contexte social de maintenant, vont aider les familles. Ils vont les aider financièrement aussi, hein, faut s'entendre, mais ils vont les aider aussi...
au point de vue humain, hein, de l'huile de coude un peu.
Et moi, quand on a des rencontres, je travaille beaucoup avec des aînés qui sont dans des associations ou dans des groupes, puis ils me disent, écoute, là, faut que la réunion finisse à 4 heures, c'est ma journée pour aller chercher les petits-enfants à la garderie. Mm-hmm. Et ils sont très présents comme grands-parents. Ils sont très présents comme proches aidants. Les aînés qui sont proches aidants, écoutez, j'ai pas le chiffre devant moi, mais il y a un bon pourcentage que ce sont les conjoints. Tu sais, ça peut être une personne qui est malade et c'est sa conjointe ou son conjoint qui va y apporter du soutien. Ou ça va être les filles ou les garçons, mais qui sont déjà eux-mêmes des aînés, hein, qui arrivent à un certain âge. Mm-hmm. Donc, mais ils sont aussi actifs un peu partout dans la société, comme les autres tranches d'âge. Il y a des gens qui sont des aînés qui sont actifs dans des clubs sportifs. Il y en a qui sont actifs dans des organisations religieuses, culturelles.
Et dans les écoles également.
Et dans les écoles, moi, je m'intéresse beaucoup aux bénévoles en santé, services sociaux, les services de soutien à domicile, l'apport des bénévoles au soutien à domicile des aînés. Pensons juste aux popotes roulantes, pensons aux visites d'amitié, aux téléphones d'amitié, assurer une présence, une écoute. C'est beaucoup des aînés. Je m'intéresse aux bénévoles en soins palliatifs. Les bénévoles en soins palliatifs ne sont pas exclusivement des aînés, mais beaucoup ont 60 ans, 65 ans et plus. Ils sont très impliqués dans des actions bénévoles de proximité aussi, comme celle-là. Apporter du soutien, apporter de l'écoute. Il y a de plus en plus d'activités intergénérationnelles, justement, qui veulent contrer l'âgisme. Je pense aux maisons des grands-parents. Il y en a une à Montréal, 6 au Québec, des maisons des grands-parents qui sont pas des maisons où les aînés résident, mais ils appellent ça les maisons des grands-parents, mais ce sont des lieux où il y a des activités entre des aînés qui veulent, si vous voulez, jouer un rôle de grands-parents auprès de petits enfants ou d'adolescents.
Donc, on se rend compte que c'est très, très vaste. André Sévigny, je rappelle que la 28e semaine L'amitié n'a pas d'âge se poursuit jusqu'au 31 mai et vous offrirez une conférence gratuite, la participation sociale des aînés pour le développement d'une société plus inclusive et solidaire, et ce, le mercredi 17 juin à 14 h. C'est au centre Présage et on glissera toutes les informations sur notre site web. André Sévigny, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes chercheur au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec et professeur associé au département de médecine familiale de l'Université Laval. Au plaisir, profitez bien de Rimouski.
Ben oui, mais je vous remercie beaucoup et c'est un très bel endroit. J'en profite et je vais profiter de l'ACFAS aussi.
Merci, André. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette, @commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, /M.
Bernard Lavallée, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste et là pour nous parler de cette nouvelle dont on entendait parler récemment, Santé Canada qui considère retirer les jus de fruits du guide alimentaire canadien. Une nouvelle, comme je le disais en introduction, qui plaît à certains, qui déplaît à d'autres. Ce que l'on sait en ce moment, c'est que le guide alimentaire canadien recommande de consommer jusqu'à 10 portions de fruits et légumes par jour. Ça, je pense, jusque-là, tout va bien. Et qu'une demi-tasse de jus de fruits, on parle ici de 125 millilitres, compte pour une portion de fruits. Et c'est là, je pense, que certains organismes qui font la promotion de la santé sont plus ou moins d'accord.
C'est exactement ça. C'est que présentement, le guide alimentaire dit que vous mangiez une portion de fruits, donc un fruit frais, ou bien que vous buviez 125 millilitres de jus de fruits, c'est la même chose. Alors qu'en réalité, ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on extrait le jus des fruits, on enlève différents nutriments, dont les fibres, qui sont super importantes. C'est un nutriment que la plupart des Québécois ne consomment pas suffisamment. Et ce que ça fait, c'est qu'on se retrouve avec un liquide qui contient du sucre qui est libre. Et donc, quand on le boit, notre corps a de la difficulté à savoir quelle quantité de sucre qu'il est en train de boire. On n'est pas capable d'évaluer cette quantité-là. On n'est pas rassasié comparativement à un fruit. Et ce sucre-là rentre rapidement dans l'organisme parce qu'il n'y a pas d'autres nutriments pour ralentir la digestion.
On a lu beaucoup, justement, à la lumière de ces articles pour ou contre les jus de fruits, cette appellation de sucre libre. Ça veut dire quoi, ça, Bernard?
Alors, un sucre libre, c'est vraiment pour dire c'est un type de sucre qui n'est pas attaché à d'autres molécules, par exemple, et donc qui va être absorbé très rapidement dans le corps. Et donc, quand on parle habituellement de sucre ajouté, donc on pense au miel, au sirop d'érable ou au sucre raffiné, donc ce sont tous des sucres libres, ce sont des sucres qui vont être rapidement absorbés dans le corps parce qu'on ne fait que les rajouter dans les aliments, si on veut, alors que si, par exemple, on pense au sucre qui est dans un fruit, donc le sucre, lui, va être attaché à plein d'autres molécules, à plein d'autres composantes du fruit. Et donc, quand on le mange, bien, ça prend du temps à le digérer. Et donc, le sucre ne rentre pas aussi rapidement dans notre organisme.
Bernard, lorsque l'on parle de 125 millilitres de jus, est-ce que l'on sait à peu près c'est combien de cuillerées, par exemple, à thé de sucre?
C'est très peu. Je vous dirais c'est à peu près un 5-6 cuillerées à thé, là, je vous dirais. Donc, c'est très peu de sucre. Et c'est pas une question, en fait, c'est ça, c'est toujours une question de quantité, c'est-à-dire que souvent on a l'impression qu'avec cette nouvelle-là de dire « Oh mon Dieu, le jus de fruits, il faut plus en boire, c'est un poison, attention », c'est pas ça la question. La vraie question, c'est un jus de fruits, ça n'équivaut pas à une portion de fruits frais, et donc le guide alimentaire canadien ne devrait pas en promouvoir la consommation, et donc c'est pour cette raison-là qu'on recommande de le retirer. Ceci étant dit, je veux dire, faut pas s'empêcher nécessairement de boire du jus de fruits. C'est simplement qu'il faut essayer de limiter sa consommation parce qu'on sait que la consommation de sucre est associée à différentes maladies chroniques. Qu'on pense au diabète, qu'on pense aux maladies cardiovasculaires, qu'on pense à l'obésité, par exemple, on se rend compte que les gens qui consomment beaucoup de sucre, et la majorité des Québécois en consomment trop, bien, c'est associé à différents problèmes de santé. Donc, c'est toujours une question de quantité, finalement.
Et d'équilibre. Bernard, est-ce que tous les fruits sont égaux? Je parle ici, par exemple, un jus pur, que l'on dirait pur, ou un punch aux fruits, par exemple.
Bon, c'est certain que c'est pas la même chose. Quand on parle de cocktail de fruits, de punch de fruits, ça va être des sucres qui vont être ajoutés dans un liquide. Donc, ça veut dire que ce n'est pas 100% le jus des fruits. Ceci étant dit, malheureusement, il n'y a pas une si grosse différence que ça avec les jus de fruits en termes d'impact que ça va avoir sur notre santé, parce que c'est toujours une question de quantité de sucre qui est contenue à l'intérieur, et que les sucres soient naturels ou que les sucres soient ajoutés. Si ce sont des sucres libres, ils vont rentrer rapidement dans l'organisme et avoir un effet qui va être similaire sur, sur notre métabolisme.
Mm-hmm. Et on s'entend, parce que bon, je me suis amusée à aller sur nutritionnisteurbain.ca, c'est votre blog, vous avez eu énormément de questions par rapport à cette grande question dont on parle aujourd'hui, donc à savoir est-ce que les jus de fruits c'est bon ou bon, plus ou moins bon pour la santé. Et les gens demandaient, oui, mais si je le fais à la maison, et même là, ça ne remplace pas tous les bienfaits d'un vrai fruit.
C'est ça, c'est que même si donc on utilise des extracteurs à jus qui sont très populaires présentement, même si c'est un jus qui est fraîchement pressé, encore une fois, ça équivaut à, bon, on a retiré des nutriments, donc on a retiré les fibres. Je vous dirais que peut-être qu'il y a un petit bénéfice dans le sens où, comme c'est un jus qui est très frais, on vient juste de le presser, il va avoir peut-être un petit peu plus de vitamines, peut-être un petit peu plus d'antioxydants. Mais globalement, on recommande aux gens de diminuer la consommation de sucre liquide. Là. Donc, toutes les boissons sucrées, qu'on pense aux jus de fruits, cocktails, punch, boissons gazeuses, aux boissons énergisantes, etc., boissons pour sportifs, ce sont les principales sources de sucre dans l'alimentation des Canadiens. Donc, on recommande, c'est vraiment préférable finalement de croquer ses calories, croquer son sucre plutôt que de le boire.
Maintenant, c'est l'été qui s'en vient à grands pas. Aujourd'hui, en plus, on a un très, très bon avant-goût. Comment on peut bien s'hydrater si on tente d'éviter toutes ces boissons que l'on vient de mentionner?
Bien, premièrement, on boit de l'eau. Parce que l'eau, c'est la boisson numéro un pour s'hydrater, c'est ce qu'on devrait consommer le plus fréquemment. Ceci étant dit, beaucoup de gens trouvent ça plate de boire de l'eau, trouvent que ça goûte pas grand-chose. On peut rajouter des trucs dedans. On peut rajouter des fruits congelés, par exemple. On peut rajouter des herbes fraîches. On peut rajouter du gingembre pour aromatiser l'eau. On peut prendre un petit peu de jus de fruits et le diluer dans de l'eau, donc de l'eau plate ou de l'eau pétillante, par exemple. On peut se faire des thés. Ce sont toutes des boissons qui n'apportent pas beaucoup de sucre ajouté ou même aucun sucre ajouté et qui sont super hydratantes et qui peuvent avoir du goût quand même, là, sans justement perdre ce plaisir-là de boire des boissons qui goûtent quelque chose.
Et est-ce que l'on doit limiter notre consommation de smoothies? Parce que ça aussi, bon, très à la mode, mais ça aussi, c'est une forme de jus, en fait, le smoothie?
Le smoothie est différent parce qu'on va avoir l'entièreté des aliments à l'intérieur. Donc, on met les fruits, oui, mais on peut mettre des légumes ou peu importe, et on va les broyer. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui se retrouvait dans le fruit va être encore dans le smoothie, et donc on n'a pas éliminé, donc on n'a pas enlevé des nutriments, donc c'est pas la même chose. Par contre, c'est certain que si on fait un smoothie, vaut mieux rajouter comme des sources de protéines, du lait ou des boissons végétales, pour que ça soit plus absorbé plus lentement, digéré plus lentement, et que ça soit plus nourrissant comme boisson.
Oui, et en plus, bon, avec l'été qui s'en vient, on peut en profiter, là, bientôt, les fraises, les bleuets, les framboises, et ça, c'est un réel plaisir de pouvoir en manger ici.
Mais oui, tout à fait.
Bernard Lavallée, toujours un plaisir de vous parler. Je rappelle votre site web nutritionnisteurbain.ca. Un bon été, si on se reparle pas.
Merci, bon été à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Jean-Sébastien de la Liberté à la mise en onde de Marianne Paquette au micro. Bien, on se donne rendez-vous demain. Nous, d'ici là, portez-vous bien. Puis, bien, vous pouvez nous réécouter en rediffusion à 17h. Bye-bye.